Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec les furtifs de la critique. J'ai nommé Patricia Martin des Petits Matins du Week-end de France Inter avec Olivia de Lamberterie du Elle, avec Arnaud Vivian de Transfuge, de Regard et de l'excellente revue politique et littéraire Charles, et avec Jean-Claude Raspienjas de La Croix. On parle ce soir des furtifs d'Alain Damasio, mais aussi des romans de Laetitia Colombani et Michael Ondaatje, d'un livre que j'ai trouvé passionnant sur le prix Goncourt de Proust par Thierry Laget, et puis d'un livre de Chantal Thomas qui va nous promener dans le New York des années 70. Dans le courrier de la semaine, à propos du nouveau de Philippe Solers, des messages cinglants de Jean-Christophe Merel de Paris, qui loue le courage de Jean-Claude Raspienjas, qui a osé braver l'interdit et dire l'insupportable pédance des écrits de Solers. Merci à lui. Philippe Pey trouve aussi la critique de Raspienjas brillante et courageuse. C'est drôle qu'ils parlent tous de courage. Un bon résumé de l'œuvre de l'immense Philippe Solers, le fat de l'île de Ré. Au contraire, Vincent de Paris juge que savoir bien lire n'est pas donné à tout le monde, dégoûter les auditeurs des bons romanciers. Voilà à quoi Raspienjas excelle, après Houellebecq, après Simon Liberati. Voilà qu'il s'attaque bêtement à Solers. Quelle tristesse. Il faut lire Solers. Ses livres sont pétillants d'intelligence et de légèreté. Femmes, notamment, restent tellement d'actualité. Voilà. À propos de White, Oscar Lièvre s'étonne que Bret Easton Ellis, un écrivain conspué de toutes parts, trouve un accueil aussi consensuel au Masque et la Plume. L'auteur de l'assommant American Psycho n'a plus de subversif que le nom. Je vous conseille de lire son interview dans le New Yorker. Vous y découvrirez un homme qui admet n'avoir jamais étudié l'actualité politique, mais ne se prive pas d'y consacrer des centaines de tweets et des ouvrages entiers. Pour Catherine Toquet, White de Bret Easton Ellis est un pinsum, réactionnaire, lourdingue, même pas du niveau de Zemmour. Cet auteur n'a plus rien à dire quant à Olivia de Lamberterie. Comment comprendre son éloge de ce navet anti-Trump alors que la droite américaine et Trump lui-même mènent une attaque sans précédent contre l'avortement?
Parce que ça n'a rien à voir.
Bien, pour Jean-Pascal Dano, White de Bret Easton Ellis, c'est mal écrit, mal traduit et sur le fond... sans intérêt, ce livre c'est moins que zéro. Ah mais ça ils sont durs hein.
Non, moins mal traduit, ça c'est pas possible. C'est le meilleur traducteur sans doute, Pierre-Guilmina, franchement là c'est la classe.
Isaac Berlin me signale, dont acte d'ailleurs, je vais détromper, que les millennials cibles de Bret Easton Ellis, c'est pas la génération des personnes nées après l'an 2000, il s'agit des générations nées entre 1980 et 2000. Les personnes nées dans les années 80 n'ont pas le même rapport au monde que celles nées dans les années 60, pas le même rapport à la sexualité, au travail, à l'égalité. Ils sont moins intéressés par le sacerdoce salarial proposé par le capitalisme triomphant. Voici en gros certains marqueurs notables que déteste le vieux Bret Easton Ellis. Enfin, Rémi Douvenot s'enthousiasme déjà pour Les Furtifs d'Alain Damasio. Ode génialissime et pleine de créativité aux ZAD et aux angles morts de notre société. Véritable pamphlet contre la Startup Nation, les smartphones et autres villes connectées. Voilà ce que nous dit Rémi Douvenot et on parlera dans quelques instants de ce livre. Et à propos de millennials, eh bien, je suis ravi d'accueillir ici, au Théâtre de l'Alliance française, dans le public, une classe de seconde du lycée Claude Monet de Paris, dans le 13e arrondissement. Bienvenue à vous tous. Allez, on commence avec Laetitia Colombani. 2 ans après la tresse vendue, je n'en reviens toujours pas à 1 million d'exemplaires, malgré le masque à la plume, hein. Traduit dans 35 langues. Là, pour le coup, j'admire les traducteurs. Et bientôt adapté au cinéma, donc Laetitia Colombani signe les victorieuses chez Grasset, même principe que dans la tresse. L'alternance de récits, la démonstration plutôt appuyée, qu'il faut toucher le fond pour remonter et triompher. Solène, une avocate parisienne, est victime d'un burn-out après le suicide d'un de ses clients. Alors, traduction du burn-out chez Laetitia Colombani, c'est être en panne, telle une voiture sans carburant au bord de la chaussée. Son psy lui conseille de s'orienter vers le bénévolat et Solène, avocate, devient alors Solène, écrivain public. Elle exerce son talent au Palais de la Femme, foyer pour femmes en détresse, créé, ça c'est vrai, en 1926, au 94 rue de Charonne, dans le 11e à Paris, par Blanche Perron, qui était une capitaine de l'armée du salut et qui est l'autre personnage de ce roman. Jean-Claude, qu'en penses-tu ?
Il s'agit de littérature populaire, il n'y a pas de mépris dans ce préambule, c'est juste pour prévenir les auditeurs que c'est une catégorie de littérature dans laquelle, par exemple, Damasio va pas se retrouver tout à l'heure. Donc, c'est de la littérature populaire, c'est un roman, tu l'as un petit peu expliqué, sur la compassion, sur l'entraide, sur la solidarité. Au début, malgré la phrase que tu as sortie, la description de la dépression et la crise...
Elle est vraie, hein ?
Oui, oui, mais bien sûr, non, mais j'y viens. Et la crise du sens de l'existence qui arrive à cette avocate est pas trop mal vu au début. Sauf que une histoire, ça fait pas un style. Et là, du style, il y en a pas. Et c'est quand même fâcheux. Juste une autre phrase, hein. Les larmes ont affleuré à ses yeux comme autant de petits ruisseaux qu'elle n'a pu endiguer. Au secours, quoi. Au secours. En revanche, elle possède le sens du mélodrame social. Et la façon dont elle navigue entre aujourd'hui, ne ris pas, attends la suite. Non, attends la suite. Je te vois rigoler, là, je te connais. Je te connais un peu depuis le temps. Et elle navigue entre 1925 et aujourd'hui. Le problème, c'est que ce livre, il est gluant de bons sentiments. C'est des phrases toutes faites. C'est des phrases banales. C'est de la moraline. C'est tartiné de moraline.
Ce qui était le cas déjà de la tresse, hein.
Oui, bien sûr.
Je vous le rappelle.
Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'elle a un vrai sujet. C'est-à-dire que l'histoire du palais de la femme et le sort des femmes perdues, battues, exilées.
Et de cette Blanche Perron, qui était
Blanche Perron, voilà, qui est une vraie découverte. La précarité exponentielle des femmes dans la société d'aujourd'hui. Et en effet, l'histoire de Blanche Perron, la création de l'armée du salut. Moi, j'ignorais qu'ils avaient été jusqu'à être lynchés, c'est-à-dire qu'ils étaient attaqués, on les frappait. Enfin, je ne savais pas ça. Et comment est-ce qu'on peut faire de la guimauve avec un sujet pareil ? C'était la question qui m'a obsédé. Je voudrais lancer un appel, si c'est possible, profiter de France Inter et tout. Est-ce qu'il est possible que les romanciers arrêtent de faire rire leurs personnages à toutes les phrases ? Moi, ça m'horripile, ça vient des mauvaises séries télé.
Mais c'est pas si fréquent que ça.
Mais si, c'est
hélas
trop fréquent.
Jamais j'ai vu Solaire faire rire ses personnages.
Ça, c'est pas faux, mais ni ses lecteurs, hein. Ni ses lecteurs, je préviens aussi. Non, si vous voulez, on est là face à une tendance actuelle qui est qu'au lieu de tenter d'écrire des bons romans, un certain nombre d'écrivains, aujourd'hui, alignent des lieux communs, des histoires invraisemblables, mais ce qui est plus inquiétant, c'est que ça marche et que des bons éditeurs prêtent leur concours à ça.
Patricia.
Mais c'est racoleur. Rien. Déjà la couverture. Enfin, comment
la couverture,
elle est moche.
Non, on est à la radio. Elle est affreuse. On voit pas
Si le public est ici, il voit. C'est affreux. C'est rose bonbon avec différents profils. Enfin, c'est absolument atroce. Non, moi j'ai trouvé que les quelques qualités qu'on pouvait trouver à la tresse, moi je les ai pas du tout retrouvées ici. Il y avait un peu d'émotion. Là, il y en a un peu sur. Disons que la partie consacrée à Blanche Perron, à cette femme, effectivement. Extraordinaire, et à son mari Alba, car il faut aussi le citer. Bon, ça, là, il y a quand même quelques trucs qui sont pas trop mal. Mais alors, la Solène, mais c'est pas possible. C'est le sommet du ridicule, enfin, cette espèce de fille. Qu'elle veuille brosser le portrait d'une winneuse actuelle, etc., elle peut le faire, mais alors elle le fait avec des vraies armes, elle le fait avec de la vraie littérature, des phrases sensées, des mots, et pas avec cette espèce de truc qui te tombe sur les pieds. Et alors là où j'ai trouvé que c'était franchement indécent, c'est quand elle évoque les attentats du 13 novembre, qu'elle va à la Belle Équipe, à un moment donné, boire un café, et qu'elle est là, et qu'elle pense à tous ces gens qui étaient là, et qui n'arrivent pas à se lever le matin. Alors, il faut déjà lui rappeler qu'il y en a certains qui ne se lèveront plus jamais le matin, et que ceux qui peuvent encore le faire, enfin, méritent un peu plus que les 3 phrases d'une pauvreté insensée qu'elle ose écrire.
Moi, je suis comme Patricia, j'avais plutôt défendu la tresse, qui était... qui se tenait. Vous savez, c'est comme dans la vie quand vous avez ce sentiment de déjà vécu Eh bien là, le livre, sur un sujet que j'ignorais, hein, cette femme de l'armée du salut, vous avez en permanence un sentiment de déjà-lu, tellement tout est prévisible. C'est-à-dire que vous pouvez finir les phrases, vous pouvez faire des jeux avec les amis avec lesquels vous lisez, vous pouvez finir toutes les phrases, elle avait un sourire, oh, éclatant, enfin tout comme ça, et vous pouvez finir le livre dès, je pense, le premier chapitre. Donc le burn-out, essayer de faire du caritatif, on sait qu'elle va arriver, qu'elle va pas aimer, on sait que les femmes précaires vont se rebeller, on sait qu'elle va trouver un sens à sa vie auprès des femmes pauvres. Non, j'ai trouvé ça dégoûtant, en fait, alors que c'était vraiment un vrai sujet, tu l'as dit. Moi, j'ai adoré au cinéma le film qui s'appelait « Les Invisibles ». Qui était formidable. Sur un sujet
avec il faut dire la moitié des voilà. comédiens étaient des non professionnels
mais qui était vraiment sur un sujet un peu similaire mais il y avait de l'esprit, de l'humour, tout ce qui manque à ce livre. Non, là c'est vraiment un gâchis raté total.
Arnaud.
Oui, c'est beaucoup moins bien que La Tresse, qui était quand même bâti sur un rythme ternaire. Souvenez-vous, hein, il y avait trois histoires entremêlées.
Et trois pays si différents. Veux,
voilà. Là, on est dans un rythme binaire, un peu comme de la techno, hein, parce qu'il n'y a que deux histoires. Donc, c'est pas tellement l'armée du salut, c'est plutôt l'armée du haut secours. Très vite, hein, ça vous prend. Et alors, il y a deux choses quand même. D'abord, si un psy vous conseille de faire du bénévolat, changer de psy. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment, il est pas bon. La deuxième chose, c'est concernant les traductions, c'est que je pense que on a tellement, c'est ça qui est étonnant finalement avec ce livre, c'est qu'on a l'impression, et je te rejoins, hein, on peut terminer les phrases, c'est qu'on a le sentiment qu'il a été écrit par une machine. Et qu'il est, il est supposé quand même parler de sentiments profonds, d'inégalité, d'injustice, de sort terrible, déplorable, vraiment de ce qu'il y a de pire dans le comportement humain, et c'est écrit par une sorte de machine, qui fait qu'il n'y a aucun affect dans aucune phrase. C'est étonnant, c'est que, contrairement à ce que vous dites, c'est pas gluant de sentimentalité ou de bons sentiments, au contraire, c'est totalement sec, comme si c'était écrit par un robot, mais vraiment, si un ordinateur peut battre le champion du monde des échecs, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas écrire comme Laetitia Colombani.
Voilà, vous avez donc votre livre de l'été, il s'appelle Les Victorieuses, c'est chez Grasset, et c'est signé Laetitia Colombani. Les Furtifs, donc, aux éditions La Volte, que vous avez du mal à vous procurer les uns les autres, je sais, hein, vu le nombre d'appels que j'ai reçus. C'est 15 ans après l'énorme succès de La Horde du Contrevent, le nouveau et volumineux roman, 700 pages, d'Alain Damasio, un roman dystopique et anticapitaliste, nourri de Deleuze et de Foucault, qui nous promet le pire. Alors, il faut imaginer la France de 2040, c'est très simple, la finance règne en despote, la surveillance est totale, les riches et leurs milices privées écrasent davantage les pauvres et les grandes villes sont privatisées. Alors Paris, c'est évidemment par LVMH, Cannes par Warner, Orange par Orange, des villes où l'accès est dorénavant régulé, les plus démunis disposant d'un forfait standard, les plus fortunés d'un forfait privilège. Chaque Français porte une bague où sont numérisées toutes ses données personnelles. Quant aux furtifs du titre, eh bien, ce sont les nouveaux Robin des Bois, des néo-gilets jaunes qui réussissent à échapper au contrôle généralisé, et des furtifs insurrectionnels qui inventent les ZAG, les zones autogouvernées. Tout le roman, d'ailleurs, dont la typographie, c'est très bien fait, est adapté à chaque personnage, raconte comment un homme et une femme vont tenter de retrouver leur fille unique de 4 ans disparue un matin furtivement. Il faut savoir qu'il y a un album avec le livre que Damasio a réalisé avec Yann Péchin, qui est le guitariste de... Notamment l'ex-guitariste de Bachung. Arnaud, ça c'est un sujet pour Charles, ça, ce livre.
Oui, tout à fait, oui. D'abord, premier étonnement, c'est la première fois que mon grand-fils de 23 ans me dit « Tiens, papa, est-ce que tu peux me garder ce livre ?» Je m'y suis donc plongé avec un intérêt, je surveille quand même les lectures de ma progéniture, et donc ça m'a intéressé, je n'avais lu aucun livre de
mais,
lui.
Mais lui, ton fils connaissait Damasio ?
Ah oui, tout à fait, il m'a parlé d'ailleurs de son deuxième roman, et il m'en a très très bien parlé, avec les mots écorchés par le vent, enfin il m'a raconté ça, et je me suis dit « Tiens, c'est intéressant, de toute évidence, il y a un écrivain là qui fait quelque chose, » Et d'ailleurs, ce livre se vend énormément.
Très très bien, très très bien.
C'est tout à fait étonnant, je vois des...
Parce qu'il y a un culte d'Amasio qui est né notamment au moment de la Horde du Contrevent.
Oui, la Horde du Contrevent, c'est celui-là où... Donc, voilà. Parce que c'est un poète aussi, d'Amasio. Donc,
c'est SF, poésie...
Poésie,
et politique.
Voilà. Ça m'a fait penser à ce que pouvait faire, ou ce qu'aurait pu faire, s'il n'était pas décédé prématurément, Maurice Dantec. Il y a quelque chose, là, on est dans ce registre-là, d'une SF très politique.
Mais moins violente, quand même, que du Dantec, hein.
Moins violente, oui. C'est autre chose, mais... Alors, très sincèrement, j'en ai lu la moitié, et je vais vous dire pourquoi. C'est que je me suis arrêté à un moment. Au début, j'étais assez captivé, et je me suis arrêté parce que je trouve, hein, c'est mon avis, c'est que ce monsieur, au bout d'un moment, se regarde écrire, et que ça devient extrêmement fatigant. Il y a des très très belles idées. Alors, tu en as parlé, hein, la privatisation des villes, Paris LVMH, je pense, c'est des trouvailles. Chacun circule dans les villes avec des passes qui renvoient finalement à nos passes téléphoniques. Ou pour un ordinateur, c'est qu'il y a le pass standard et puis le premium et puis le privilège et suivant, voilà, vous êtes pauvre ou riche, des accès de la ville vous seront interdits et c'est quand même, je veux dire, ça se passe en 2060.
2041.
Il y a plein de choses qui nous semblent vraies. Ce que j'ai le moins aimé finalement dans la moitié du roman, la première moitié du roman, donc c'est les furtifs. Là, j'ai trouvé que c'était des espèces de Pokémon deleuziens et que franchement, c'était un petit peu je me sentais un tout petit peu infantilisé avec il y a que l'armée française qui les a repérés au monde. C'est quand même assez extraordinaire. D'ailleurs, c'est un petit commando qui n'est pas sans rappeler SOS Fantôme, hein, quand même. L'équipe qui traque les furtifs, on se dit, oui, ok, là, j'ai vu SOS Fantôme, donc je vois sur quoi c'est calqué avec, bizarrement, il y a des choses quand même très bizarres dans ce livre. Bon, parce que Orange est racheté par Orange, l'opérateur téléphonique.
Je l'ai dit.
Mais sauf que à Orange, il y a une avenue Akimbe qui est justement le grand théoricien de ce qu'on appelle les zones d'autonomie temporaire. Donc les TAS en américain, et donc qui rappellent vraiment nos zones à défendre, les ZAD. Donc comment se fait-il que Orange accepte qu'une avenue s'appelle Akimbe et il y en a une autre qui s'appelle avenue Miguel Benassayag, qui est le grand philosophe libertaire. Donc il y a comme ça des sortes d'incohérences qui sont charmantes en même temps. On voit bien qu'il
essaye. C'est de la provocation quand on sait qui est le maire de
d'Orange.
D'Orange.
Vois, voilà, là on se dit quand même c'est très bizarre que les avenues portent ce nom-là. Enfin, il y a des choses comme ça et il y a en même temps il y a cette invention typographique, je la trouve absolument remarquable. Il faut dire que chaque personnage a un
ce qui n'avait jamais été fait, ça.
Jamais été fait, c'est une véritable invention, a une typographie qui se mêle à la véritable typographie, qui donne un aspect extrêmement étrange au texte et très beau visuellement, c'est magnifique.
Olivia.
Moi, mon fils aîné m'a demandé Brett Easton Ellis, ce qui tendrait à prouver qu'on est réactionnaire chez moi, et donc d'extrême gauche chez Arnaud. Rien à signaler. J'ai essayé beaucoup. Il faut dire qu'on connaissait déjà les pavés. Là, honnêtement, c'est pas un pavé, c'est une brique. C'est-à-dire que ça pèse 200 kilos.
Oh.
Et c'est... Ah, si, c'est quand même assez indigeste. J'ai commencé La fleur au fusil. J'ai eu beaucoup de mal à commencer, mais j'ai quand même commencé. Et c'est très bizarre ce qui s'est passé avec ce livre. J'en ai lu 250 pages. C'est que j'ai l'impression de comprendre tout ce qu'il veut dire, tout le sous-texte, et notamment une chose que j'aime beaucoup sur finalement, on va être tous et on est déjà tracés, mais en fait, on est volontaire. Et c'est vrai que dans la vie, je me dis toujours, les gens n'arrêtent pas de se plaindre qu'avec leur téléphone, on peut les repérer partout. Mais tout le monde a un portable. C'est très simple. Il suffit de ne pas avoir de portable.
Il paraît que lui n'en a pas.
Et il paraît qu'il n'en a pas, exactement.
Non.
Donc je trouve qu'il décrit très bien ce qu'il appelle le techno-cocon et le self-service. Tout ça est très malin.
Alors c'est quoi le hic?
C'est qu'on comprend rien.
Oh non.
J'ai compris les furtifs, j'ai trouvé que l'idée était très belle. Les gens qui, eux, on ne sait pas quelles créatures ce sont, mais ce sont des gens qui, justement, veulent échapper au traçage et qui vivent dans les angles morts. J'ai compris la détresse de ce couple qui se sépare, qui se déchire.
C'est une idée assez banale, d'ailleurs.
Parce que leur petite fille a disparu et que donc n'accepte pas... Voilà, ils n'acceptent pas les choses de la même manière. Ils ne vivent pas leur chagrin de la même façon. Ça, j'ai trouvé que c'était assez beau. J'ai trouvé que l'idée que finalement il a, parce que j'ai l'impression que le livre bascule, parce que j'ai sauté des pages, hein, je suis désolée, je l'avoue, d'une dystopie à une utopie, parce que finalement, il dit que ce qu'il sauve, c'est que nous sommes des humains. Et par rapport au livre de science-fiction où on était sauvé par, je ne sais pas, de l'homme artificiel, là, c'est en fait comme une sorte de régression qui peut nous sauver. Donc, j'ai trouvé que toutes les idées étaient belles, et puis que ce que je le lisais, moi, non, je ne comprends rien, non.
Jean-Claude ?
Moi, je veux dire que j'ai, mais même pas adoré, je veux dire, j'ai été mais enthousiasmé par ce livre, que j'ai trouvé absolument fascinant, hypnotique, je le lâchais pas, tout m'emballait, tout, c'est-à-dire les idées, les trouvailles, les phrases, les inventions.
Tes enfants t'ont demandé ou pas?
Alors, je vais pas raconter ma vie ici, je trouve que j'ai un fils qui est un peu plus grand, enfin, j'en ai deux.
Il t'a demandé Laetitia Colombani.
Il habite à l'étranger.
Non, Solaire. Il a dit non, papa, t'as pas le Solaire.
Laissez-le parler. Ça y est, vous l'avez vexé, maintenant, il ne peut rien dire.
Ah, pas du tout. J'attends que que ces blagues s'écrasent d'elles-mêmes. Et puis, nous allons pouvoir reprendre une conversation normale. Donc, j'en étais donc au passage de mon fils qui vit à l'étranger. Et quand il a aperçu ça, il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, c'est absolument formidable. C'est le meilleur de la SF. Donc, on a eu une discussion. Comme cher Novivian, ça ne doute pas de la même nature. Mais nous avons eu cette conversation. Et il voulait l'embarquer à l'étranger. Je lui dis, t'attendras, mon petit gars. Hein, voilà. Donc, le préambule était
il quand même... Il aurait eu un excédent de bagages.
Voyons ça. Donc, tout m'a emballé. Moi, j'ai été bluffé, saisi. J'ai trouvé absolument extraordinaire comment il arrivait à enchasser.
C'est quand même. Vous dites pas que c'est paniquant, je trouve, moi. C'est
non, très, mais moi, j'ai trouvé que littérairement, j'ai été absolument saisi. Et j'ai trouvé qu'il.
Dans 20 ans.
Mais c'est aujourd'hui, c'est déjà aujourd'hui. Oui, mais c'est
mais c'est l'idée quand même. Hein.
Non, mais moi, je parle littérairement.
C'est de montrer qu'on est déjà là. Oui.
Non, mais de toute façon, c'est le stade ultime de l'aliénation sous toutes les formes. Donc, c'est bien normal qu'il s'attaque à ça. Donc, j'en étais à vous dire que moi, j'ai été extrêmement touché par la façon dont il arrivait littérairement, je veux dire en termes d'art littéraire, à enchasser l'histoire de cette quête éperdue d'une enfant perdue par ses parents au milieu de ce délire de science-fiction que je trouve extraordinairement maîtrisé, d'une puissance poétique à toutes les pages, qu'il a une façon de renouveler les mots, il renouvelle le dictionnaire, et il m'a fait sans arrêt penser au grand poète disparu qui s'appelait Gerasim Luka. Il y a chez lui quelque chose de l'ordre du travail littéraire, de l'imaginaire, ouais, qui est absolument foisonnant, et avec des tas d'idées poétique à presque chaque phrase. Et moi, je l'ai absolument pas lâché. Oui, il était lourd. Il se trouve que j'ai eu pas mal de voyages à faire. Je l'ai traîné avec moi. Donc, c'est vrai qu'il est lourd, mais je ne le lâchais pas. Je trouvais ça mais absolument passionnant. Je vous encourage, mais au-delà de tout, à lire ça. C'est une expérience de lecteur que moi, j'ai rarement eue. C'est-à-dire qui était à la fois philosophique, métaphysique, spirituelle, artistique, esthétique et même physique.
Et physique, puisqu'il faut quand même porter les 700 pages.
Alors, il n'y a pas que ça, mais physique, parce qu'il teste aussi notre résistance de lecteur. Et je vois que quelques-uns d'entre vous ont craqué. Eh bien, moi, j'ai tenu.
Oui, en dépit d'inventions, mais qui sont parfois presque lacaniennes. Les proférants, là, il y a cette idée de l'éducation a été privatisée, donc il y a des proférants. C'est une magnifique idée de.
Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que je peux ajouter?
Moi, j'aime beaucoup la phrase de Deleuze qui cite dans toutes les interviews qu'il a faites. On entre dans un livre comme dans une armurerie. Patricia.
Moi, je suis très malheureuse pour plein de raisons. Parce que d'abord, je trouve que moi, je suis sortie plombée parce que c'est quand même tout à fait désespérant.
Ah, t'es d'accord.
Parce que d'abord, c'est pas du tout de la science-fiction.
Et paniquant,
c'est pas du tout de la science-fiction. C'est l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, effectivement, comme tu le disais,
non,
Olivier.
Non.
Oh, quand même.
Les villes sont pas encore privatisées.
Oui, enfin bon, c'est faisable. Ça peut être fait
par des fabricants
très vite.
De trottinettes, peut-être, mais
donc
pas
c'est,
par.
C'est tout à fait vraisemblable, alors que dans la SF, justement, le fait que l'homme et la machine se mettent ensemble, face alliance, a un côté libérateur. Là, c'est tout à fait le contraire. Bon, et ça, il le décrit très bien. Tout ce qu'il dit des furtifs au début, tout ça est très bien. L'histoire de ce couple, moi, je l'ai trouvée poignante. Le style, c'est formidable. Il y a effectivement toute la typographie. Il y a des dialogues qui sont super bien fichus. En même temps, il y a des descriptions. Les dialogues sont comme ça, très vrais, très spontanés. Il y a des descriptions qui, au contraire, elles sont assez précieuses, sont très élaborées. Il joue avec les temps. Enfin, il connaît très, très bien son conditionnel au passé. Là, moi, je trouve ça assez...
Mais alors, où est le mais ?
Eh ben, le mais, c'est que ça ne m'a pas touchée. C'est-à-dire, je suis restée complètement extérieure en me disant, ma vieille, t'es trop conne. Pardon. T'arrives pas, ou t'es, je sais pas pourquoi, je suis pas arrivée à rentrer dedans. Alors, je vais essayer de le lire en d'autres circonstances, c'est-à-dire quand on n'est pas pressé par le temps.
T'es bien brave, hein.
Non, mais peut-être qu'en vacances, sous un arbre, ça peut.
Qui a eu une pensée pour les traducteurs? Ça va être coton, hein. Non, mais pour les traducteurs de ce livre, ça va
ah
être
oui,
coton.
Vont traduire du
quand ils vont le, devoir le traduire pour l'étranger,
oui,
ça va être
coton. En même temps, c'est leur boulot. Hein.
Oui, c'est vrai.
La traduction en albanais va être compliquée, je pense. Allez.
Savez, il y avait le traducteur japonais de Joyce. Il disait, il y a deux manières de traduire Joyce en japonais. Il y en a une longue et une courte. Et j'ai choisi la longue.
Les Furtifs, c'est donc, attention aux éditions La Volte. Et c'est signé Alain Damasio. Ombre, au pluriel, sur la Tamise de Mae Calanda Jay, traduit de l'anglais, voilà, par Laurie Saint-Martin, j'aime beaucoup ce nom-là, et par Paul Gagné, et c'est aux éditions de L'Olivier Ondaatje, qui est né, je le rappelle, au Sri Lanka, qui est l'auteur du fameux Patient anglais, porté à l'écran par Minghella, auréolé de 9 Oscars. Bref, un roman qui s'ouvre ainsi, en 1945, nos parents partirent en nous laissant aux soins de deux hommes qui étaient peut-être des criminels. C'est un début formidable. Génial. Et la suite est très bien. Rachel, 16 ans, son frère Nathaniel, 14 ans, sont donc confiés pour une année à un ami de leurs parents, lesquels doivent quitter Londres, enfin disent qu'ils doivent quitter Londres, pour Singapour. Cet ami est surnommé le papillon de nuit et Rachel imagine qu'il fait carrière dans le crime. Autre mystère, la mère, Rose, censée être partie, n'a en fait jamais quitté Londres. Elle surveille ses enfants de loin. Je ne peux pas dire, je pense, hein, qui se cache sous le pseudonyme de Viola. Et en fait, c'est Nathaniel, devenu donc longtemps après archiviste, qui est le narrateur de cette histoire absolument incroyable, où j'ai pensé à une sorte de mélange de Modiano et de Black et Mortimer, mais période Blitz. Olivia ?
Ah ben, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était magnifique, vraiment à l'aune de cette première phrase que tu as citée, parce que c'est totalement modianesque, en tous les cas, pour la première partie, avec ses deux enfants ados comme des chiens perdus abandonnés dans Londres. Et en même temps, c'est totalement écrit avec une précision diabolique.
Oui.
C'est-à-dire que chaque phrase, qu'on ne repère pas d'ailleurs forcément dans la première partie, va trouver son écho dans la deuxième ou dans la troisième. C'est tout à fait diabolique. Il renverse les choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous savez, comme une sorte de jeu de domino. Parce que la deuxième page, donc le père est nommé, on dit la mère, bah la mère, comme c'était une épouse et elle ne pouvait pas vivre sans son mari. Donc, bon, bah, elle doit abandonner ses enfants et partir aussi en Asie. La troisième page, les enfants disent « Mais est-ce que notre mère, finalement, n'était pas capable d'assassiner quelqu'un avec ses bras blancs ?» Enfin, sans arrêt, les choses se renversent. Il y a ces personnages interlopes magnifiques.
Formidable.
Papillon de nuit, il y en a un qui s'appelle Citronnelle, qui est un tailleur pour monsieur qui a arrêté ses activités de couturier pendant la guerre pour devenir un espion. C'est un roman d'ambiance. Pour le coup, contrairement à tout ce que tu as dit sur Damasio, c'est d'une émotion. Mais vous êtes vraiment renversé d'émotion.
Ça fait un film, mais sublime.
Un film magnifique, parce que on pense en plus au début que c'est un livre sur l'après-guerre, avec tous ces gens qui ont eu des activités un peu louches et qui donc les perpétuent après-guerre. Après, c'est un livre sur la guerre, et puis après, c'est un livre sur une femme. C'est somptueux.
Patricia.
Oh, je suis tout à fait d'accord, c'est un roman d'atmosphère. C'est, en ce sens-là, probablement, il est très modianesque. Il y a une étrangeté, il y a une mélancolie, il y a une incrédulité, le désarroi de ses enfants. Il y a des scènes absolument bouleversantes. Après, quand plus tard, il retrouve sa mère et qu'ils sont des étrangers l'un face à l'autre, qu'ils se méfient l'un de l'autre et qu'il dit « mais elle n'attendait même pas que je l'aime ». C'est absolument terrible. Il y a une phrase aussi très belle et très juste qui, à mon avis, correspond bien à l'esprit du livre, c'est quand il écrit « on ne revit pas les événements, on en est le témoin ». Et c'est effectivement, malgré le recul, malgré le fait que ce soit un adulte qui écrit, il semble comme un peu comme d'ailleurs à un moment donné, il cite Picasso qui peignait comme ça, il écrit comme à la lueur d'une bougie pour mieux saisir le mouvement des ombres et pour recréer ce qui a pu se passer. Parce que de toute façon, quand on est enfant, déjà, le monde est indéchiffrable et qui plus est, évidemment, pour ces deux-là qui ont été absolument dépossédés d'eux-mêmes et qui, du fait de l'anonymat des parents, enfin, cet anonymat qu'on comprend quand même au fil du livre, on en comprend le pourquoi au fil du livre.
Mais après, il y a des choses qu'il ne faut pas raconter.
Non, mais il a aussi été, d'une certaine manière, il leur a été imposé.
C'est quand même un peu cousu de fil blanc, hein, quand même.
Pardon ?
Je dis, c'est quand même un peu cousu de fil blanc.
Tu trouves ?
Oh, ben, oh. Écoute, bah, moi, je veux bien voir des fils comme ça. Non, c'est vachement bien. Okay. Et effectivement, les personnages annexes, enfin, bon, le Sam Malakit, là, l'exemple de résilience, le type qui cultive, c'est un exemple de résilience formidable. Il cultive ses légumes, on ne dira pas non plus qui c'est, mais c'est un type absolument extraordinaire. Non, c'est une
Et puis avec des belles expressions de langage, le plancher des hirondelles. pour raconter la maison avec le.
T'as vu sa gueule?
Alors,
lui,
Arnaud,
la tête, je l'adore. Oh, mais lui, je l'adore.
Mais attends, il a une. Il a un regard.
Ses yeux. Humain.
Si on vous dérange, vous nous le dites.
Non, il est humain. Pour une fois qu'on rencontre un humain, on a le droit de le souligner.
Mais peut-être d'ailleurs que c'est inspiré de ses souvenirs d'enfance.
Mais c'est un humain de papier, Patricia.
Non, mais ça doit être inspiré du petit garçon qui arrive du Sri Lanka, qui débarque sur les bords de la Tamise, il a 11 ans, et qui est dans un monde totalement étranger. Ah oui.
Elles sont scotchées, là.
Ah oui.
Arnaud, je sens qu'il y a un problème.
Ah oui, là, c'est vraiment... radicalement ennuyeux, etc.
Oh,
c'est
non.
C'est tout ce que je déteste, là. Oh. L'écriture au fusain. J'écris à la bougie, mais allume la lumière, gars. Oh. Tu verras, ça ira beaucoup mieux, quoi. Le mélange de John Le Carré et Modiano, je ne voulais pas l'imaginer, et quelqu'un l'a fait. Mais alors, effectivement, on sent bien. Le gars se dit, OK, là, j'ai vendu le Patient anglais, là, j'ai fait un film. Nul, d'ailleurs, je veux
dire. Oh non !
Patient anglais,
magnifique !
Mais l'académisme le plus boursouflé, le non-cinéma absolu hollywoodien de... Pardon. Donc, non, tout ça n'est pas possible. On sent bien, alors là, il a tout mis, hein, le brouillard. Il a exagéré sur les fumigènes, à mon avis, vous voyez. C'est le film avec beaucoup, beaucoup de fumigènes, des courses de lévrier, enfin, on a tout, là.
Ça, les courses de lévrier, ça existait
vraiment. Ça s'appelle Ombre sur la Tamise, mais ça devrait s'appeler Ombre tamisée, tellement on comprend rien.
D'anglais qui les suivaient, ces courses.
On dirait La nuit du chasseur, filmé, effectivement, à la bougie. Enfin, non, tout ça, non, mais.
C'est bien, La nuit du chasseur à la bougie.
Non, déjà, non. Ça, c'est le comble de l'académisme le plus surfait.
Jean-Claude.
Il n'y a pas d'académisme, il y a en effet un roman d'atmosphère. Moi, j'ai beaucoup aimé, et à la différence de ce que dit Olivia, ce n'est pas la précision moi, qui m'a impressionné, c'est précisément ce que notre ami appelle les fumigènes, ce qui précisément moi, m'a beaucoup plu dans ce livre, dans lequel je me suis enfoncé avec plaisir, parce que sans arrêt, on est dans... C'est un roman de formation à tâtons, et tout est insaisissable.
Mais
tout,
c'est ça qui est bien, c'est le mélange des deux.
Et la précision, moi, je ne la voyais pas. Je voyais au contraire, et je me laissais embarquer par ça, par le côté perpétuellement insaisissable. Les gens ne sont jamais ce qu'ils paraissent. Les rendez-vous sont toujours dans des endroits très compliqués. Les nuits sur la Tamise, sur les péniches, pour aller faire son trafic de lévriers, c'est absolument passionnant. Ces sauts de différents pays pour essayer de trouver des personnages qui sont des furtifs, là aussi. Il y a, ce que j'aime, c'est cet air d'inquiétude qui baigne en permanence ce livre qui est riche, touffu, obscur, et qui se tient derrière...
Il n'est pas obscur, non, il n'est pas obscur.
Obscur par moment, non, mais par moment, laisser... pas non, tout le temps, mais non. Par moment, un petit peu. Mais je ne lui reproche pas, au contraire, j'ai dit que j'aimais ça. Et je trouve que c'est formidable de le faire dans ce Londres lugubre, noir, et que c'est le décor parfait pour un livre d'espionnage, d'ambiance et de trac.
Ombre sur la Tamise.
On est trois contre toi, mon cher Arnaud.
De Michael... Là, ça ne me dérange pas du tout.
Il adore. Dis pas ça, il adore.
Oui, ça, c'est plutôt ce qu'il aime. De Michael Ondaatje. Et c'est aux éditions de l'Olivier East Village Blues. Au seuil, je crois que déjà Olivier avait conseillé à la fin où c'était Arnaud.
Et c'est moi aussi.
Bon, les deux, trois.
Un récit.
On est d'accord pour une fois.
De Chantal Thomas, augmenté de photos d'Alain Weiss. Alors, pour ceux qui pensent que la romancière des adieux à la reine vit toujours à Versailles, qu'elle ne fréquente que les rois de France, qu'elle ne travaille que sur le XVIIIe siècle, bah, ça va être un choc quand même. Puisqu'on découvre que juste après avoir soutenu une thèse sur le marquis de Sade, sous la direction de Roland Barthes, la jeune Chantal Thomas fumait des joints et dansait dans des boîtes pour femmes exclusivement. Elle raconte en effet sa découverte stupéfiante, au sens propre, de l'East Village. C'était au milieu des années 70, elle est introduite au Bonnie and Clyde, se mêle aux parties qui se succèdent dans les chambres du Chelsea Hotel. Elle écoute John Baez évidemment et Bob Dylan, elle croise dans la rue quelques mythologies en chair et en os. Je dis bien elle croise, hein. Andy Warhol qui marche comme un zombie avec ses yeux de poisson mort, ou les survivants de la Beat Generation, il y a bien sûr Allen Ginsberg, William Burroughs. Alors évidemment, quand elle revient, c'est le début du livre en 2017, ben elle trouve que tout a changé, même beaucoup changé, et notamment que la tour jumelle où elle enseignait le français est tombée. Reste ce livre que moi je trouve absolument merveilleux et encore une fois qui va surprendre ceux qui ne croient qu'elle est exclusivement une 18e-iste. Patricia.
Bon, c'est une merveille. D'abord, c'est une styliste. Dès le départ, on est embarqué. Je veux dire, quand elle raconte le départ de Paris, le rosier qu'on
a. Sans que ça soit non plus trop. C'est pas un exercice de style.
Non, mais c'est la façon dont elle arrose son rosier la dernière fois. Elle arrive à Roissy, le départ. Elle se met près du hublot parce qu'elle a besoin de regarder le paysage, parce que dans l'avion, elle ne lit jamais. L'arrivée à New York avec ses odeurs, cette couleur jaune, la grosse dame qui est devant elle et qui fait la queue au taxi. Enfin, je trouve que tout de suite, elle vous prend, quoi. Il y a véritablement une atmosphère. Après, le livre, en fait, c'est surtout pas un document, parce que je pense qu'on sait.
C'est un certain nombre
de. Voilà, c'est un récit, mais c'est surtout une rencontre entre, au fond, entre un lieu, une personne et un moment. Parce que c'est arrivé, effectivement, à un moment de sa vie, il y a quelque chose d'initiatique. Elle découvre d'abord une forme de liberté. Peut-être que c'est là aussi qu'elle s'est autorisée à écrire, parce que tu parlais de ce qu'elle avait écrit avant, mais c'était sa thèse où elle sort vraiment du giron de Barthes. Elle cite Blanchot avec une espèce de vénération. On sent bien que tout ça, bon, elle s'en débarrasse un peu. Et puis, elle voit New York, non pas... Elle est avec une amie sur qui elle a un certain regard. On voit bien qu'elle est amoureuse de cette fille. Mais elle n'est pas à New York comme une touriste. Elle ne regarde pas ça comme une étrangère. Elle y vit, elle en fait vraiment partie. Et alors, c'est pas... Effectivement, à un moment donné, elle est dans une boîte, j'ai noté cette phrase, elle dit « L'éclat du concept me rendait plus sensible à la douceur des lèvres ». Alors évidemment, c'est pas Destroy, hein, la façon... Elle se retrouve quand même dans des fêtes, et là aussi, c'est drôle, c'est sa douceur à elle, sa subtilité à elle, et puis le côté complètement... le télescopage avec ses nuits folles.
Elle raconte même aussi les boîtes lesbiennes de Paris... De la
mais,
même époque.
Mais toujours hein. D'une façon, elle contourne, elle détourne. Ah oui. Il y a un jeu très subtil, très élégant et en même temps très vrai.
C'est pas du Christine Angot, c'est sûr. Jean-Claude.
D'abord, moi quand j'ai ouvert le livre, je me suis dit, c'est un peu comme Jean-Paul Kaufmann avec Venise. Bonne chance à celui qui s'attaque à New York, je veux dire, aujourd'hui, quoi. Et c'est une merveille. C'est-à-dire, ça fait trois fois qu'on est trois à parler, ça fait trois fois qu'on emploie le même mot. Oui, c'est une merveille. C'est une merveille d'écriture, de grâce. C'est un voyage léger et doux. Tu as parlé de son départ. Moi, j'ai été, mais saisi de plaisir et de bonheur de la façon dont elle décrit le départ. Précisément. Mais la façon dont on...
Attention, le départ d'aujourd'hui.
Le départ d'aujourd'hui, oui, mais que... je veux dire, ce départ en avion, je veux dire, qui est devenu une sorte de banalité pour beaucoup d'entre nous, elle a une façon de le décrire et d'en faire
un... Dans le fait de décoller.
Oui, et puis surtout, elle décompose les étapes et la façon dont elle le fait est absolument magnifique, c'est-à-dire même sur l'aura du décollage, sur cette sensation à la fois excitante et anxieuse de monter vers le ciel, d'y être. Ensuite, le choc de l'arrivée, c'est-à-dire qu'il y a, même sur des endroits qui nous sont familiers, c'est une autre température, c'est un autre air, c'est des autres parfums, c'est tout ça.
Quand tu dis ce sont des endroits qui nous sont familiers, j'aime beaucoup ça parce que je pense que pour beaucoup d'auditeurs,
mais
effectivement,
je ne parle pas
débarquer à New York, c'est très familier.
Mais alors, je me suis mal fait comprendre, je ne parlais pas de New York en particulier, je disais qu'il nous arrive d'aller dans certains endroits qui nous sont familiers, quels qu'ils soient, et c'est vrai que d'avoir fait ce voyage en avion change la perception immédiatement quand on arrive et qu'elle le traduit très très bien. Je trouve que c'est des séries de petits moments saisissants. Par exemple, elle a...
Enfin, ça, c'est quand même trois pages du début. Vous ne parlez pas du tout du...
Ah, c'est plus que trois pages. Ben non, c'est pas ça. C'est plus que trois pages. Et alors, tu as parlé d'Andy Warhol, ce qui est absolument formidable, parce que tu disais ses regards. Ce qu'elle nous explique, c'est évidemment, il a subi un attentat, qu'il a failli vraiment mourir. Et elle dit ce qui est...
C'est un survivant, c'est un zombie.
Oui,
hein.
Mais il est mort, pratiquement. Elle a l'impression de voir un mort quand elle le décrit.
Elle dit précisément, et c'est ça qui est bien, et c'est après ce qu'elle en faire, c'est qu'elle dit qu'il a un regard de mort-vivant. Et c'est juste. Mais ce qu'elle fait de Warhol quand elle revient aujourd'hui, c'est qu'elle s'aperçoit qu'au fond, c'est le triomphe de Warhol. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que tous les visages dans New York aujourd'hui sont quasiment barbus, sont la réplique du même, et barbus sortent chez le même barbier, ils ont la même coupe et tout ça, que chacun veut affirmer son individualisme et en fait tout le monde se ressemble. Elle observe aussi quelque chose qui est très malin, c'est le glissement des graffitis d'autrefois sur les murs qui sont devenus aujourd'hui des tatouages, c'est-à-dire qui ont quitté les murs pour les corps et qu'on est passé des revendications collectives à l'exhibition de sa pseudo-singularité.
Olivia.
Moi j'ai trouvé que c'était un livre euphorisant en fait, parce qu'elle a une telle joie juste de vivre qu'elle communique de manière absolument merveilleuse. C'est aussi peut-être, on me taclait dans le courrier des lectrices, c'est l'Amérique qu'on aime. C'est le contraire de l'Amérique de Trump que je vomis et qui interdit l'avortement état par état. La femme chez qui elle s'installe est géniale. C'est une lesbienne tellement activiste.
Elle est complètement folle quand même.
Lorsqu'elle croise Kerouac sur le dans la rue, elle dit « c'est un tel macho que je change de trottoir ». Au-delà de l'expérience de Chantal Thomas, c'est un portrait des poètes de la Beat Generation absolument géniale. Mmh. Parce qu'elle montre comment ils avaient réussi à faire sortir les livres, enfin la littérature des livres, mmh. et comment ça avait contaminé absolument toute la vie. Comme ça avait...
Elle parle des lectures publiques.
Elle parle des lectures publiques qui vous donnent envie de danser, de boire, de vous droguer, de toutes ces parties où elle est très étonnée. On lui dit, bah, viens, on va chez quelqu'un d'autre. On connaît personne. Elle dit que ça n'a aucun intérêt. Il y a un passage où il y a quelque chose de presque emblématique de cette époque complètement folle. C'est, il y a un incendie. Elle raconte qu'il y a beaucoup d'incendies à l'époque. Et il y a des petites filles qui dansent la ronde sur le trottoir dans la rue. Et il y a quand même une dame qui dit, bah, écoutez, quand même, vous exagérez, parce que si c'était votre maison qui brûlait, vous seriez moins joyeuse. Et les petites filles, en continuant de faire la ronde, disent « Ah ben c'est notre maison qui brûle mmh. ». Et mmh. je trouve que c'est vraiment...
Ou la vie quotidienne au Chelsea Hotel, qui est quand même quelque chose de fou.
De fou.
De chambre en chambre.
C'était
hein.
des fous furieux. Et elle dit que par rapport effectivement à Blanchot, où on disait surtout, ah, avant d'écrire, vérifiez 10 000 fois que ce que vous allez dire est vraiment nécessaire.
L'esprit français. Oui.
L'esprit français, et que mmh. tout d'un coup, Kerouac qui dit « Il faut que je tape plus vite sur ma machine à écrire et elle est contaminée
oui, alors que les Français
par ça.
Écrivent à la main.
Mais bien c'est sûr, bien sûr, c'est inouï.
Arnaud.
Oui, ben vous avez tout dit. Sauf peut-être une chose qui est assez rare. C'est un témoignage assez, oui, assez rare. J'en ai très peu vu sur le fameux blackout de 1977.
À la toute fin du livre.
Absolument. À la toute fin du livre. Évidemment.
C'est aussi le début, je le précise, du roman de Bernard Coman qui vient de paraître aussi, qui commence par cette fameuse
cette
panne électrique.
Oui, qui a duré quand même près de 48 heures. Il faut imaginer New York sans électricité.
Mais où les gens sont heureux.
Très heureux.
Ils dansent.
Bah, il se passe beaucoup de choses.
Ils ont fait des enfants, je te signale.
J'imagine que Honda a dû pondre un chef-d'œuvre au moment du blackout.
Non, mais là, attendez.
À cause des bougies, là. Tu veux dire, ou grâce aux bougies.
Oui, c'est ça, oui, ouais. Là, voilà.
Mais attendez,
là.
Vous avez,
oui, il a dû nous faire lecture. Un roman au fusain, là, je
quoi
le sens bien.
Ah, mais moi, j'ai fait tout à fait une autre lecture de ça. Ce qu'elle montre, c'est que d'un seul coup, quand il n'y a plus d'électricité dans une ville comme celle-là, c'est la sauvagerie qui tout de suite sort.
Non, il y a les deux.
Il y a les deux.
Il y a la sauvagerie.
Mais s'agit-il bien de sauvagerie, c'est une autre question. Et d'autre part, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que. Donc évidemment, c'est la spécialiste du 18e, de Sade, des salons aussi. Et d'une certaine manière, on retrouve et Sade et les salons, parce que ces gens ne font que parler durant ces soirées. Ce sont d'autres formes de salons, des salons
oui, c'est,
américains.
C'est pas Madame Dudéfend voilà, et Mademoiselle de l'Espinasse.
Mais
hein.
très poétique, il y a une scène. Parce que ce qui est très intéressant, c'est aussi son rapport à la sexualité qui est là. C'est pas tellement un livre sur New York, finalement, c'est un livre sur elle.
Mais elle a une façon de parler des corps absolument extraordinaire.
Et c'est le plus intéressant, c'est ce qu'elle dit sans le dire d'elle-même.
Surtout qu'elle le fait juste après ce livre qui était magnifique, c'est tous les lieux, oui. non, tous les lieux où elle a nagé,
ah oui, oui. Mais qui était mélancolique.
Un livre liquide qui passait par les mers, par les lacs et par le fameux canal de Versailles. Allez, East Village Blues, c'est Chantal Thomas et c'est au seuil très rapidement, malheureusement. Proust, prix Goncourt, sous-titré Une émeute littéraire chez Gallimard, c'est le livre que consacre Thierry Laget à la consécration mouvementée il y a 100 ans de l'auteur de La recherche du temps perdu. Au lendemain de la Grande Guerre, Proust provoque en effet ce qu'on peut dire une véritable guerre de tranchées. Le jury Goncourt, qui venait de couronner à la fois le feu de Barbus et civilisation de Duhamel, s'apprête à poursuivre sa mission patriotique en couronnant Les Croix de Bois, le premier roman de Roland Dorgelès, 34 ans, ancien combattant d'Argonne, décoré de la Croix de Guerre, mais d'autres jurés, dont le très antisémite et monarchiste Léon Daudet, soutenait au contraire, à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Proust, 48 ans, évidemment que ses détracteurs accusaient de s'être couché de bonheur en 14-18. Bref, toute la France entière s'est lancée dans une bataille. Alors la gauche se range derrière Dorgelès, la droite derrière Proust, accusé par ses ennemis d'être un Balzac dégénéré, un Marcel Proust publiant ses petites coliques d'enfants, voire une icône des Rothschild. Non, mais c'était tout ça, c'était très violent. Hein. Finalement, c'est Proust qui l'a emporté par 6-4 à Dorgelès, lequel, d'ailleurs, en guise de compensation, a reçu le prix Femina, qui s'appelait alors le prix Vie Heureuse. Pour un roman sur l'enfer des tranchées, ça ressemblait un peu à un canular. Oui. Bref, Proust, prix Goncourt, Thierry Laget, dites-moi rapidement si vous pensez, comme moi, que c'est un livre à lire, y compris pendant l'été. Arnaud.
je vais frimer un peu, j'ai lu la première mouture de ce livre il y a exactement, ça me rajeunit pas, 38 ans. Oui, j'ai lu la première mouture de ce livre il y a 38 ans. Alors je sortais avec la sœur de Thierry Lager. C'est comme ça, c'est l'histoire qui arrive. C'est lui qui m'a conseillé de faire une hypocagne puis une cagne à la canale, comme il en l'avait fait lui-même. Et j'étais en train moi-même d'essayer de rédiger mon mémoire de maîtrise. Et donc il m'a passé le sien qui était sur l'attribution du prix Goncourt à Marcel Proust et donc qui était la première mouture de ce texte. Et il en parle d'ailleurs dans une note à la fin où il dit que...
Il parle de toi ?
En 40 ans. Non, il parle pas de moi. Il dit qu'en 40 ans... Non, il explique qu'il y a un travail préliminaire universitaire et qu'il a, il l'a repris pour écrire ce livre 40 ans plus tard quasiment. Et donc ce qui est formidable, c'est que entre donc c'était en 1981 et aujourd'hui, la perspective a totalement changé. C'est qu'en 1981, on ne s'en souvient pas, mais le grand écrivain français, ce n'était pas Marcel Proust, c'était Céline. Tout le monde ne parlait que de Céline. Solers parlait de Céline, Philippe Muret parlait de Céline, Nab était inspiré par Céline. Donc c'était, et on ne parlait absolument pas de Proust au début des années 80. Et 40 ans plus tard, Proust est devenu le grand écrivain français et Céline n'a pas disparu, mais enfin il est très minoré.
Pour autant, t'es d'accord que ça se lit comme un polar presque.
Ah bah, c'est
l'histoire du prix Goncourt. On connaît l'issue, mais j'ai eu le sentiment en lisant ce livre que je ne savais pas qu'il allait gagner.
Alors en 40 ans, Thierry Lager a fait quand même, c'est un écrivain. Il c'est un traducteur de l'italien aussi. C'est un très grand proustien et donc il a travaillé.
Olivia.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à propos des prix littéraires, il y a toujours deux écoles. Il y a les gens qui disent « Oh là là, c'était pire avant », ceux qui disent « Oh là là, c'était mieux avant », mais en fait, c'était exactement la même chose. C'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire que le prix Goncourt, déjà, est une sorte de fête nationale de la littérature. Les écrivains,
c'était en décembre, c'était beaucoup plus tard.
Les écrivains, comme aujourd'hui, font mine de mépriser ce qu'ils cherchent à décrocher. Tout ça est quand même du commerce et... on donne à Dorgelès le prix de la misogynie parce que le prix Fémina devait être décerné avant. Oui. Et pour ne pas l'avoir, parce qu'il était favori
encore
du Fémina...
Encore prix Fémina, vie heureuse.
Exactement. Et il ne veut pas l'avoir parce que s'il l'a, il n'aura pas le prix Goncourt. Alors à ce moment-là, il écrit qu'il ne peut pas décemment accepter pour un livre de guerre un prix donné par des femmes. Mmh. Et là... Thierry Lager écrit « La goujaterie » et l'autre nom donné à la galanterie. Merci, oui. Voilà, c'est un peu long sinon, il aurait pu le reprendre un tout petit peu plus, non ?
Le mémoire de maîtrise était plus court.
Jean-Claude ?
c'est un pur bonheur de lecture. Mais un pur bonheur de lecture, le style, la tenue, la maîtrise.
Finalement, t'as été heureux ce soir, venir au masque.
Mais oui, et oui. Puis l'auditeur qui pensait que je désinguais les bons auteurs, je sais pas... Il va en être pour ses frais pour ce dimanche.
Qu'est-ce que vous êtes susceptibles les uns et les autres?
Pas du tout, c'était juste pour montrer que c'est pas mal. Non, mais c'est une façon de dialoguer avec l'auditeur, c'est quand même pas mal non plus.
L'émission va se terminer.
C'est follement réjouissant, c'est absolument fou. Et à propos d'émeutes dans la presse, parce que ça s'appelle une émeute littéraire, je trouve que nos querelles actuelles sont plutôt des divertissements de chaisière par rapport à cette grande époque. Et alors ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est les manœuvres de Proust, quoi. Tu disais une guerre de tranchées, c'est une guerre de mouvement et de position. Les manœuvres sournoises, tout ce qu'il fait pour essayer d'avoir le Goncourt.
On est juste après la Grande Guerre, c'est ça qui est fou.
Oui. Mais lui, il n'est pas inerte dans cette histoire. Il est très. Il cherche à l'avoir.
Mais encore une fois, il est couché de bonheur. Alors, Patricia.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, quand il l'a reçu, il était couché. Ça, c'est une scène qui est hilarante dans
quand l'éditeur arrive.
Quand l'éditeur arrive, il y a.
Céleste Albaret.
Elle pousse la porte, elle ne toque pas, elle ne dit pas monsieur.
La phrase la plus courte de sa vie.
Ah. Vous avez le Goncourt. Ah, il est sous son édredon, il crache, il tousse et ça sent très fort dans la chambre d'après ce que raconte Lager.
Et que les manuscrits aujourd'hui encore ont encore l'odeur.
Et c'est vrai qu'il connaît absolument tout le monde, donc avant il manœuvre, mais il n'y a pas que lui, ça grenouille dans tous les sens. C'est pas toujours à la gloire du genre humain tout ce qui se passe. Quand l'humanité titre place au vieux...
Ni de la critique littéraire, de Proust à cette époque-là dans les journaux qui lui en voulaient, en tout cas.
Non, mais absolument. Mais c'est amusant. Non. Et puis c'est instructif. Mais c'est vrai que je suis un peu d'accord avec Olivia. Parfois, c'est un peu long.
Proust prix Goncourt, c'est Thierry Lager et c'est chez Gallimard. Allez, un conseil pour terminer cette émission. On commence avec Olivia.
Un livre intitulé « Je suis le carnet de Dora Maar » de Brigitte Benkemoun.
Au moment où il y a cette exposition formidable au Centre Pompidou.
Au Centre Georges Pompidou, une histoire absolument incroyable. Son mari perd son agenda. Elle ne retrouve plus le même qui n'existe plus. Il en achète un sur eBay. Brigitte Benkemoun ouvre le paquet, ouvre l'agenda. Et à l'intérieur, il y a un petit agenda en papier oublié. Alors elle l'ouvre et elle voit uniquement des gens extrêmement connus. Il y a Braque, il y a Matisse, il y a Picasso, il y a tout le monde. Donc elle va enquêter et elle va découvrir que c'est le carnet d'adresse de Dora Maar. Et à partir de chaque personne, à chaque lettre, elle va reconstituer la vie de Dora Maar. C'est vraiment formidable. C'est chez Stock.
Le conseil d'Arnaud.
Souvenir écran de Noël Herp chez Bartilla.
Je co-signe avec toi.
Voilà, oui, c'est un livre absolument magnifique. Noël Herp, qui est critique de cinéma, qui a co-écrit la biographie notamment de Éric Rohmer, s'est promené en France puisqu'il présentait des films de Clouseau, dans des cinémathèques et des cinéma-clubs, vraiment partout en France. Il y a une quarantaine de villes. Il a fait ça en 2017-2018.
C'est tout récent.
Et donc, c'est tout récent. Et donc, à chaque fois, c'est la même chose. Il va dans une ville, il débarque, il rencontre le type qui s'occupe du ciné-club ou d'ailleurs la dame et de la cinémathèque. Et puis il est là. Hein, c'est des endroits très très bizarres. Alors il présente le film. Pendant que le film est diffusé, il va dîner avec le responsable et puis il revient pour faire un débat. Et il est dans des hôtels, il raconte les voyages et c'est vraiment la France périphérique, la France qu'on fin de découvrir aujourd'hui avec le mouvement des
Gilets jaunes. Mais c'est pas la Croisette.
Hein. Ah non, c'est pas la Croisette, c'est l'anti-festival de Cannes, ce livre. Et c'est absolument, mais drôlatique parce que il a un côté Louis de Funès.
Entre Jacques Tati, je trouve, et Louis de Funès.
Et Louis de Funès parce qu'il est réac, il est bougonnant tout le temps. C'est juste formidable. Très, très drôle.
Noël RPC chez Bartilla. Mon conseil, c'est un livre enquête absolument passionnant, un peu sérieux, mais passionnant, qui s'appelle Un village pour aliéner tranquille. Vous l'avez pas lu, chez Fayard, de Juliette Rigondet.
Ah oui, je l'ai reçu.
Et c'est l'histoire que j'ignorais complètement de Dun-sur-Oron, c'est dans le Cher, la ville de France qui encore aujourd'hui compte le plus grand nombre de malades mentaux. Et pour vous expliquer la chose, c'est qu'en 1892, pour désengorger les asiles, le docteur Auguste Marie, qui est un très bon médecin, décide d'exfiltrer les incurables tranquilles et de les placer à la campagne, dans des familles d'accueil rémunérées. Et donc la première colonie de malades mentaux arrive à ce moment-là et ne va cesser de croître année après année. Et l'auteur, cette femme, Juliette Rigondet, a trouvé des archives incroyables. Elle a évidemment recueilli des témoignages inédits, des dossiers médicaux, et elle donne à la toute fin la raison pour laquelle elle s'est particulièrement intéressée à ce village. J'ai trouvé ça passionnant. C'est une sorte de Le Roi la Durie de la folie, qui s'appelle Un village pour aliéner tranquille, et c'est chez Fayard, de Juliette Rigondet. Le conseil de Patricia.
Chez Joël Losfeld, de Marc Villemain, un livre qui s'appelle Mado. Ce type, il avait déjà écrit des nouvelles précédemment. Il a un don extraordinaire, toujours sur le fil, de se mettre dans la peau de très jeunes filles qui découvrent leur sensualité, la sensualité de leur corps, mais aussi de la nature, de la mer. Il y a une sorte d'absolutisme comme on aime quand on peut aimer quand on a 15 ans, une sorte forme de nostalgie des débuts et de leur innocence. Et je trouve que c'est un livre à lire l'été, ça va très bien avec cette saison.
Chez Losfeld, et on termine vite, Jean-Claude.
Aux éditions de l'Olivier, les calendriers de Robert Cotard. Robert Cotard était facteur en pays de Caux, il a pris sa retraite et il profite d'une partie de sa mission de service public qui était de distribuer le calendrier à la fin de l'année pour faire un livre formidable, rempli de moments sur l'hésitation.
Avec des scènes incroyables, et en même temps qui montrent assez qu'il est un écrivain. Et c'est la raison, mon cher Jean-Claude, pour laquelle on va en reparler cet été au Masque et la Plume.
Parfait.
Et tu seras d'ailleurs là ce soir-là. Merci Olivia de Lamberterie, Patricia Martin, Arnaud Vivian et Jean-Claude Raspienjas pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam, et ce soir au Théâtre de l'Alliance Française. À la technique, et je les remercie, il y avait Delphine Baudet, Philippe Thibault, Mathieu Leroux. La réalisation était, comme chaque semaine, signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, c'est le jeudi 20 juin. Je vous attends très nombreux au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.